Prions. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, que ton Esprit nous vienne en aide. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, du verset 1er au verset 8. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis alors qu'ils crient vers lui jour et nuit, il les ferait attendre. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Il faut se rappeler les veuves. Ce mot en français, vous le savez peut-être, vient du latin « vidus », qui veut dire « vide ». En grec, ce mot vient de « béance ». Et en hébreu, ça vient de « deuil ». Luc, l'évangéliste Luc, est notre auteur du jour et des jours qui sont passés et qui viennent. Luc, donc, dans son évangile, met particulièrement en valeur les veuves. Des veuves qui, si elles ont la Torah pour elles, ne trouvent pas forcément des gens pour faire appliquer les règles de cette Torah. Outre notre veuve du jour, Luc est le seul à parler de la prophétesse Anne. Vers le début de l'Évangile, au chapitre 2, elle est âgée de 84 ans, on dit qu'elle est veuve depuis longtemps, elle accueille Jésus et ses parents, et ce sera la première finalement à parler de Jésus qui est tout petit à ce moment-là. Luc est aussi le seul à raconter l'histoire de la veuve de la ville de Naïn, un récit particulièrement touchant. Une femme qui s'apprête, donc veuve, et qui s'apprête à enterrer son fils unique. Et c'est quelqu'un qui a ému Jésus très profondément, dit le texte. Rappelons enfin que le sort des veuves doit être considéré avec d'autres catégories de personnes qui, elles aussi, ont la Torah pour elles, et il y a toujours un mais qui n'ont pas forcément des gens qui font appliquer les règles de la Torah. Donc, Zacharie le rappelle, rappelle ces autres catégories, hein. La veuve et l'orphelin, l'émigré et le pauvre ne les exploitent pas. Alors ce point imprécisé, important, pour situer quand même l'épaisseur du texte, nous pouvons regarder notre récit du jour. Nous allons d'abord évoquer son style d'argumentation, ensuite, eh bien on va évoquer quelques points qui pourraient ou qui sont gênants, ça dépendra de votre attitude à les considérer comme telles. Et puis, nous découvrirons dans ce texte comment brutalement, eh bien, il remet tout à plat, comme si quelque chose recommençait. Et enfin, eh bien, nous prendrons une autre perspective pour tenter de le comprendre encore mieux, peut-être. Alors, l'argumentation, c'est simple. On trouve ici un argument dit a fortiori. L'argument a fortiori, ça présente une implication qui n'est pas une équivalence. Et je m'explique. Je prends un exemple. Alors, je vais prendre un exemple trivial et un peu masculiniste. Hein. Et c'est le type d'exemple qu'un prédicateur devrait éviter parce que les gens se souviennent que de l'exemple. Bon, hein. Voilà. Alors, vas-y, j'y vais. Ne t'inquiète pas. C'est l'exemple, hein, ça commence. J'ai déjà réparé les pneus de poids lourd dans ma vie. A fortiori, celui de ta Fiat 500 ne me posera pas de problème. Implication. J'ai déjà réparé plus difficile, donc je peux réparer plus facile. C'est simple. Pas d'équivalence, car un pneu de poids lourd n'est pas équivalent à celui d'une Fiat 500. Bon, j'avoue, je n'y connais pas grand-chose, mais j'imagine que c'est différent. Mais encore, on peut dire que dans cet exemple, nous trouvons le même concept qui fait liaison, le pneu. Mais ce type d'argument peut dériver davantage et pousser la non-équivalence vers des extrémités, comme par exemple dans notre texte. D'un côté, il y a un juge, et vous l'avez entendu, de l'autre côté, il y a Dieu. Ce juge sans foi ni empathie arrive à rendre la justice en faveur de cette veuve qui insiste, a fortiori, Dieu, qui n'est donc pas l'équivalent d'un juge humain sans cœur, on le sait, rendra la justice à tous ceux qui le supplient. Voilà l'argument. D'abord, disons qu'un esprit critique n'est pas forcément prêt à admettre ce type d'argument en général. Donc, encore une fois, ne réduisez pas cette prédication à cette histoire. Mais ce n'est pas parce que je sais réparer un pneu de poids lourd que forcément je sais réparer un pneu de Fiat 500. C'est certes probable, mais ce n'est pas certain. Tous les arguments a fortiori devraient contenir ce petit doute critique. Il a géré une très grande entreprise, a fortiori il peut gérer un ministère. Abordons maintenant les deux éléments présumés gênants, ou qui sont gênants. Encore une fois, c'est à vous de le déterminer. Le premier, c'est simplement la comparaison, finalement, entre ce juge et Dieu, et ce, même si on comprend, évidemment, qu'ils ne sont pas équivalents, puisque le premier est mauvais, c'est bien décrit, et le second est bon, puisqu'il est Dieu. Mais à la fin, ce qui reste, une fois qu'on a lu ce texte, c'est le rapprochement entre deux entités qui n'ont rien à voir. Il demeure, finalement, après lecture, une image rémanente, celle d'un Dieu juge. Dans ce cas, peut-être que l'argumentation proposée n'est pas, en tout cas à nos oreilles contemporaines, très convaincante, et l'effet escompté semble ne pas se produire. Donc j'en appelle à votre réflexion post-culte, hein, si vous le souhaitez. Un argument pareil vous aurait-il convaincu? Le second élément peut être encore plus gênant est ce morceau de phrase. La deuxième partie de la phrase que je vais vous lire maintenant, relire. « Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis. » Je ne sais pas si vous l'aviez entendu tout à l'heure. Le « à ceux qu'il a choisis ».« À ceux qu'il a choisis ». En restant dans la comparaison, puisqu'elle nous est offerte, à tort ou à raison, entre ce juge et Dieu, on pourrait dire qu'au moins ce juge n'a pas choisi sa veuve. Comme vous le savez, elle le harcèle. Pour le bien, pour la justice, pour la défendre contre un adversaire. En revanche, nous lisons bien, nous avons bien entendu que Dieu, lui, choisit. Que dirait-on d'un juge humain qui choisirait ceux à qui il rend justice? On dirait, il n'est pas juste. Bien entendu, il s'agit là d'un thème très connu, très vieux, qui s'appelle l'élection. Pour les protestants, cela évoque la fameuse double prédestination calvinienne, qui pour beaucoup, et il paraît pour Calvin lui-même, qui ne l'a jamais prêché publiquement, reste gênante. Mais au risque de provoquer un peu, et parce que j'aime bien les textes, on pourrait aussi penser que peut-être la bonne nouvelle n'a pas tout le temps besoin de ménager les gens. Aménager notre façon de toujours bien ranger notre maison théologique avec un Dieu toujours bien à sa place. Ne pourrait-on pas, ne serait-ce qu'envisager, que la bonne nouvelle puisse être gênante? Pourquoi, au fond, Dieu ne choisirait-il pas ceux qu'il veut sauver? Je crée le silence. Qui sommes-nous, justement, pour juger à sa place ? Re-silence. Que savons-nous de Dieu, finalement ? Peut-être que tous les théologiens, qu'ils soient confirmés, amateurs, avant d'affirmer ce que Dieu pense ou ce que Dieu fait ou dit, devraient d'abord réfléchir au niveau d'honnêteté intellectuelle dans lequel, avec lequel ils veulent procéder. Ils devraient déjà ne pas oublier une simple précaution qui consisterait à dire, par exemple, que dans un texte biblique, il est raconté que Dieu dit ou fait cela, et non pas directement dire « Dieu dit ou fait cela ». Ensuite, si le ton en vient au témoignage, l'exégète, le prédicateur, l'honnête homme ou femme, éventuellement peut prolonger par, en fonction de ce texte et d'après ce texte, « moi, je pense ça ». Par exemple, « je pense » et même « je crois que Dieu t'aime » parce que je te tutoie et c'est un effet de rhétorique, de prédication. Mais je serai, même si je pense et même si je te dis que je crois que Dieu t'aime, je serai en somme finalement bien incapable de l'affirmer. Après avoir traité les aspects sans doute un peu gênants de ce récit, on va regarder maintenant ce qui va tout remettre à plat et ce qui, d'une certaine manière, nous sauve de toutes ces questions préalables. La question finale va repousser bien loin tous ces questionnements. Cette question c'est « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» À première lecture, on ne s'attend pas à ce que cette question surgisse comme ça. Le problème n'est donc plus maintenant la possibilité de justice, ni à qui elle s'adresse, ni même les moyens pour la faire advenir, mais simplement, y aura-t-il encore quelqu'un pour exiger cette justice ? Cette question, certes, elle est rhétorique dans notre texte du jour et elle est sans doute destinée à réveiller les lecteurs sur le lien qu'ils devraient faire entre la foi qui est contenue dans cette question et la justice, entre leur foi, donc, et la justice qui est le thème majeur de ce texte. Luc essaie peut-être d'inviter ses lecteurs ou auditeurs à faire le lien, la connexion entre les deux. Mais cette question aussi pourrait venir nous chercher dans l'inclination que nous aurions peut-être, nous aussi, à abdiquer. Trop d'injustice, à quoi bon lutter ? Le monde est finalement ainsi. Donc, je renonce. Ce serait une façon, finalement, de m'adapter, de nous adapter à ce monde-là. Le monde que trouvera peut-être le Fils de l'homme quand il reviendra. Le monde qui commence à ressembler beaucoup à celui dans lequel nous sommes. Donc là, tout est remis à plat. Mais la prédication n'est pas finie. Jésus, on le sait, a raconté des paraboles. On est presque tous d'accord pour dire que les paraboles sont peut-être... On peut dire avec une quasi-certitude qu'il a prononcé ces paraboles-là à des gens qui étaient autour de lui. Une transmission orale stricte a permis que ces paraboles lui survivent, le dépassent d'une certaine manière. Puis, 50 ans après, à peu près, pour certains, des évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, et dans une moindre mesure Jean, ont couché ces paraboles dans leurs œuvres, mais les ont toujours placés dans un contexte, le leur, ce qu'ils ont choisi. Et souvent, ce contexte, qui précède ou qui suit, d'une certaine manière, indique la voie à suivre pour interpréter la parabole. Comme ici, quand Luc dit, il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Notez la nuance, Luc n'écrit pas, il leur disait une parabole en leur expliquant qu'il faut toujours prier sans se lasser. C'est Luc qui parle. Donc, pour lire une parabole, moi j'ai envie de les entendre comme si je me trouvais dans la foule en train d'écouter Jésus parler et il m'envoie cette parabole. Et puis après il en rencontre une autre et moi je suis toujours avec cette parabole et j'ai pas le contexte littéraire. Je suis dans une foule et j'écoute quelqu'un. Ça n'a rien à voir, vous voyez ? Alors, pour résoudre tous les problèmes que pourrait poser cette parabole enchâssée dans une gangue littéraire, tout à fait respectable bien sûr, qui offre une interprétation, nous pourrions aussi décider de ne garder que l'histoire fictive, c'est-à-dire la parabole. Cette parabole, isolée de son contexte, commence donc par « il y avait dans une ville » et se termine par « de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête ». Alors déjà, c'est un peu rigolo ça, mais au passage, et pour accentuer un peu, pour faire une petite pause vers la fin de cette prédication, là, maintenant c'est presque fini, cette expression en grec désigne ce qui est en dessous des yeux, pas les cernes, mais vraiment ce qui est en dessous des yeux, et évoque donc presque de façon claire, finalement, un œil au beurre noir. Donc vous imaginez un peu la tonalité de cette femme. Dans cette parabole purifiée, nous ne saurions plus d'avance qui est Dieu ou l'humain. Personne ne nous aurait dit à l'avance à quoi cette parabole sert. Nous verrions donc en cette femme une insistante, une militante, une effrontée, une sauvage, une persistante, une jusqu'au-boutiste, une courageuse. Et nous la verrions se confronter à un homme cynique qui finirait par craquer. Alors, nous préférerions peut-être nous imaginer Dieu dans la prière de cette veuve, tentant ce Dieu-là sans relâche, d'atteindre cet humain cynique pour qu'il fasse enfin justice. C'est le contraire du renoncement. Parce que cet humain cynique-là, il le peut. Il en a le pouvoir, là où il est. À vous de juger, évidemment. Amen.